Ésaïe au chapitre 61.
Alléluia.
Voilà. Avec Jésus, demeurer pour toujours. C'est l'espérance glorieuse qui habite chacun de nos cœurs ce matin. Amen. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bon, je vais faire ce que je peux parce que cette semaine, j'avais la voix éteinte. Vous m'entendez presque plus. Et aujourd'hui, je crois que vous m'entendez.
Oui.
Bon, c'est bien. Alors, cette prophétie du prophète Ésaïe, inspirée par le Saint-Esprit, bien sûr, a été annoncée presque 8 siècles avant la venue du Seigneur Jésus. Quand il en a fait la lecture dans la synagogue de Nazareth, on remarque que Jésus s'est arrêté pour publier une année de grâce du Seigneur. Il n'a pas cité la suite, bien sûr, et un jour de vengeance de notre Dieu. Il est évident, bien sûr, que ce jour de vengeance, il reste à venir. Il a pu affirmer aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le Seigneur était là. Amen. Alors certains pourraient penser ou pourraient réduire la pensée de l'année de grâce à l'année du jubilé, par exemple. Hein, puisque tous les 50 ans en Israël, il y avait une année sainte. Une année sainte, un temps de libération pour les esclaves. Il y avait un temps où les dettes étaient remises, où beaucoup d'Israélites recouvraient leurs biens. Mais l'année de grâce a une autre, toute autre dimension, bien sûr, il ne faut pas la limiter. Hein, ce sera aussi très dommageable et réducteur de dire « ça, c'était pour Israël ». N'oublions pas ce que dit l'apôtre Paul aux Galates. Galates 3, 29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, fils de celui qui est appelé le Père des croyants. »
Amen.
Les promesses, elles sont aussi pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Avant, nous étions étrangers aux promesses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus en Jésus-Christ héritiers des promesses de Dieu. Alors certains pourraient aussi penser que, disons, la parole de Dieu, bah écoutez, ça c'est Pierre qui le dit, ça c'est Paul, ça c'est pour les Romains, ça c'est pour les Galates, les Éphésiens, etc. Alors on a l'impression quelquefois qu'il faut vraiment avoir fait de hautes études de théologie pour comprendre la parole de Dieu. Je crois que les humbles, les plus humbles, disons, sont capables de la comprendre parce que c'est l'Esprit de Dieu qui leur révèle la parole. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, il ne faut pas que la parole de Dieu devienne un supermarché, ça m'arrive souvent de le dire. Hein? On passe avec le caddie, puis on prend ce qui nous intéresse. Le reste, on le laisse. Eh bien non, c'est pas ça. Moi, j'aime mieux ce que dit, ce qui est écrit dans Jacques 1, 22. Et en comptant sur la grâce, j'essaie de le vivre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En Jésus, c'est Dieu qui visite la terre. En Jésus, c'est le souffle divin qui passe sur cette terre. Gloire au Seigneur. Hein, la bonne nouvelle de l'Évangile est apportée aux humbles. Les cœurs brisés sont guéris, les captifs sont libérés, les prisonniers relaxés en Jésus-Christ. Jésus est venu pour consoler tous les affligés. Tous les affligés. Ça vous arrive d'avoir un peu d'affliction quelquefois? Oui. Moi aussi. Jésus est venu pour consoler tous les affligés, ceux d'Israël et les autres. Jésus, c'est le grand réparateur des brèches, gloire à son nom. Il est venu pour publier la nouvelle alliance qu'il a scellée lui-même de son sang. Le cœur de Jésus, quand même, quand on le voit sur cette terre, il était plein d'amour. Bon, excusez-moi, mais j'ai des problèmes de sécheresse, là. C'est pas grave, on va faire avec. Il faut que vous me supportiez quelques instants. Hein, le cœur de Jésus était rempli d'amour quand même sur cette terre. Hein, on voit combien il était ému de compassion devant la misère humaine. Il était pris aux entrailles, littéralement. Il était pris aux entrailles devant la détresse des hommes. Alors si on veut prendre un exemple, vous savez, quand il passait là... Et près de Naïn, il voit une pauvre veuve qui va amener son fils en terre. Le cœur de Jésus était pris aux entrailles. Et il dit à cette femme, ne pleure pas. Nous, on aurait dit ça, ça aurait été peut-être des paroles en l'air. Mais, vous savez, la parole de Jésus, elle a un immense pouvoir de consolation. Elle a un immense pouvoir de consolation. Avant de ressusciter son fils, il s'est occupé du cœur de cette femme qui était si affligée. Et ça, c'est typique de notre Seigneur et de son ministère sur la terre. Hein, dans son amour infini, il s'est occupé d'abord du cœur. Il s'occupe d'abord de notre cœur. Quelquefois, nous avons du mal à comprendre un petit peu ça. Hein, quelquefois, on aimerait bien que le Seigneur enlève les obstacles, qu'il nous réponde tout de suite, etc. Le Seigneur travaille d'abord notre cœur, par son esprit. Il s'attaque d'abord à la racine, hein, et il console nos cœurs avant de nous délivrer de nos problèmes. Hein. Il faut bien comprendre ces choses. Alors, il est toujours le même. Jésus est toujours le même. Devant le lourd fardeau de la misère humaine et rempli de compassion, il a pu s'écrier, bien sûr vous connaissez très bien tous ces passages, j'ai pas le sentiment de vous apprendre quelque chose, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos, hein, pour traduire, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a une chose que Jésus ne fera jamais, c'est ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Hein, il faut être conscient aussi de cela. Hein, et devant cet appel de Jésus-Christ, nous réalisons qu'il y a notre part. Venez à moi. Ah oui? Venez à moi, premièrement. Et prenez et recevez, il y a notre part. Et il y a une bénédiction pour celui qui vient à Jésus-Christ. Je vous donnerai du repos. Remarquez bien, du repos. Et puis, il y a une deuxième et une troisième, bien sûr. prenez mon joug sur vous, bien sûr, et avant, recevez mes instructions, la bénédiction suprême qui en découle. Vous trouverez le repos. Ah, j'ai le sentiment que quelquefois on s'arrête à la première promesse. Hein, beaucoup, bien sûr, viennent à Jésus. Et puis voilà, ils trouvent un peu de repos, ils sont contents. Le Seigneur nous invite à nous engager davantage. Il nous invite à trouver le repos, il nous le promet. Et pourquoi on ne le trouve pas? C'est tout le problème. C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi on ne trouve pas le repos? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau de nous-mêmes? Nous sommes pleins de nous-mêmes, vous savez. Hein, et quelquefois, la mort à soi-même, on a du mal avec ça. Hein. Notre vieux moi, il est résistant, il veut rien entendre, il veut pas mourir. Eh oui, nous sommes appelés à nous réveiller, mes frères et sœurs, amen. À secouer l'engourdissement du sommeil, à cesser de vivre dans les rêves et à réagir, à saisir toutes les promesses divines, à nous engager à la suite du Seigneur. Vous savez ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Eh bien ça, c'est un chemin. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. C'est un chemin qui est quelquefois assez long. Tout doucement, nous allons faire des progrès, mais il y a des progrès à faire. Le Seigneur nous invite à vivre dans son repos. Et ça, c'est une grâce suprême. Mais pour cela, bien sûr, il faut que nous ayons renoncé à nous-mêmes et que nous soyons capables de nous charger notre mort, de la mort du moi. Il faut qu'il soit crucifié avec Christ, l'apôtre Paul le disait. Hein, j'ai été crucifié avec Christ, il le disait, mais il le vivait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Que le Seigneur nous aide à faire des progrès. Hein. Oh, je ne vous juge pas, hein, je suis comme vous. Nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors la parole, bon, c'est vrai, sur ce texte, on pourrait faire un certain nombre de méditations. Mais bon, je vous livre quelques pensées. Hein, on ne va pas approfondir ce texte à fond. Hein. Oh là là. La parole... Elle nous promet, enfin le Seigneur nous promet, de nous accorder, de nous donner un diadème au lieu de la cendre. Le mot diadème hein, peut être traduit par une parure, un ornement de fête, une couronne. Il est le symbole de la dignité royale. Nous sommes fils du roi des rois. Nous sommes frères du roi des rois. Hein, nous avons besoin d'avoir en nous cette... la conscience de cette grande vérité. Le diadème nous parle de consécration royale et de sacrification aussi. Hein, le diadème, par excellence, pour moi, c'est Jésus. Amen.
Amen.
C'est le diadème par excellence. Hein, d'ailleurs, Exode 39:30 dit « On fit d'or pur la lame ». L'or nous parle de la divinité. « Diadème sacré, et l'on y écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. » Amen. Oh là là. Dieu veut nous donner la beauté de la sainteté au lieu de la cendre. Alors, vous le savez, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes rois et sacrificateurs. 1 Pierre 2:9 nous dit... Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Le diadème sur notre tête, il marque une séparation. Dans notre vie, il y a eu un avant. Il y a un après. Hein, nous n'appartenions pas à la famille de Dieu. Mais nous existions, mais sans Christ. Hein, il y a un après. Entre l'avant et l'après, entre les ténèbres et la lumière, il y a eu la cendre. Imaginez un peu la chose de cette manière. Il y a un événement qui a changé, révolutionné notre existence. C'est qu'un jour, nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes nés à la vie divine. En Christ, nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes devenus beaux.
Amen.
Aux yeux de Dieu.
Alléluia.
Amen. Amen. C'est pas merveilleux ça? Nous sommes devenus beaux. Amen. En la cendre, elle nous parle d'humiliation, elle nous parle d'affliction, bien sûr. Au Moyen-Orient, on est encore certainement beaucoup plus démonstratif que on peut l'être à Pont-Saint-Pierre. Hein. C'est certain. Enfin bon. Mais c'était une pratique pour les affligés de se vêtir d'un sac, de s'asseoir sur la cendre, de s'en répandre sur la tête. Un exemple très connu, c'est celui de Job. Hein. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre hein, dans Job chapitre 2. Bon, c'était pas un morceau de bouteille, il n'y en avait pas à l'époque. C'était un morceau de poterie, bien sûr, nous comprenons bien. Alors notre processus de renouveau, il est passé par la cendre. Quand nous avons été convaincus de péché par la parole et par le Saint-Esprit, c'est une affliction qui est tombée sur notre tête. Quand nous avons réalisé notre péché, quand nous avons réalisé que nous étions condamnés par la juste loi de Dieu, nous avons connu une tristesse. Une tristesse selon Dieu, c'est ce que dit 2 Corinthiens 7:10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Autrement dit, la cendre a été répandue, en quelque sorte, sur notre tête. Nous avons compris, bien sûr, et par la grâce de Dieu ensuite, que le montant de notre dette avait été payé, que notre péché était expié, qu'il nous suffisait de croire en Christ, en son œuvre expiatoire. Et nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Oh, vous inquiétez pas, hein. On va aller jusqu'au bout. Alors, nous sommes nés de nouveau, nés en esprit. Né de l'Esprit de Dieu, c'est l'expérience merveilleuse qui est offerte à tous les pécheurs du monde aujourd'hui encore. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre d'embellissement a commencé, que la beauté a remplacé la cendre. Et vous remarquerez que c'est le principe divin. C'est le principe divin. Luc 14, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il y a donc eu l'abaissement de la cendre et puis l'élévation de la beauté pour nous. Amen. Vous êtes beau. Vous êtes beau. En Jésus-Christ. Il y a quelque chose, c'est vrai, de très symbolique quand on voit que la croix a été plantée sur le Golgotha, sur le lieu du crâne. Hein, et on a quelquefois bien des problèmes avec notre crâne. Il nous parle de nos pensées, ah. De nos raisonnements humains. Nos pensées ont changé quand nous sommes convertis à Jésus-Christ. Vos pensées ont changé, ça peut être les mêmes quand même. Ils ont été sanctifiés, bien sûr, d'une certaine manière, mais c'est peut-être pas encore parfait. Je sais pas vous, mais pour moi, il y a encore des progrès à faire au niveau des pensées quand même. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit va nous aider d'ailleurs à maîtriser nos pensées afin qu'elles soient à la gloire de Dieu. Vous savez ce qui est écrit dans Philippiens 4:8, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, dès le moment où nous sommes passés par la croix, il y a eu un avant et après au niveau de nos pensées. Il y a eu un avant et un après au niveau de nos pensées. Sur notre tête, il y a eu le diadème sur lequel il est écrit « Sainteté à l'Éternel ». Et pour vivre dans la victoire, nous avons besoin du discernement, de la volonté de Dieu. Il nous faut vivre ce qui est écrit dans Romains 12:2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, premièrement. Deuxièmement, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Pour quelle raison ? Eh bien, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce à ce niveau-là, que nos raisonnements ne viennent pas comme une muraille s'opposer à la parole de Dieu, que nos pensées soient pures pour la gloire du Seigneur. On a, ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai l'impression que là, qu'on est sur les cendres du réveil. Il y a eu un réveil au début du siècle, notre siècle, bien sûr. Et je me souviens même que, après, moi, j'ai des souvenirs après 1945, quand même. Vous savez comment ça se passait ? Enfin, je ne juge pas, je ne dis rien, je ne suis pas meilleur que personne, Mettez-vous ça bien dans les têtes. Mais je me rappelle qu'il y a eu un temps où on chantait trois cantiques peut-être, on chantait un peu. Et puis, après, il y avait le moment de louange individuelle, on élevait la voix. Et je vous assure que si vous apportiez la parole, il fallait chanter un petit chant pour les arrêter, parce que sinon, ils vous auraient entraîné jusqu'à midi. Ça veut dire qu'il y avait, ce qu'on essayait de faire à l'époque, je vous parle de ça, c'est qu'on essayait de faire autant de chants que de louanges individuelles. C'est-à-dire autant de chants de louanges que de louanges. Voilà. C'était un équilibre dans l'Église, et quand on les laissait partir, dis donc, ça y allait. Il n'y avait pas de silence. On est un peu quand même sur des cendres fumantes, peut-être, je ne sais pas. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons besoin du feu de l'Esprit. Nous avons besoin de désirer tout notre cœur. Nous avons besoin d'aspirer à la visitation du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas pour nous de rêver à ce qui s'est passé dans le passé. Rester dans ces rêves-là, ça ne sert à rien. D'apporter un culte sentimental au lieu d'être un lumignon qui fume seulement, ça ne sert à rien. Nous avons besoin du feu de l'esprit en nous. Jean Jaurès disait fièrement en son temps, c'était en 1910, à ses adversaires, « Nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux, nous en avons pris la flamme, vous en avez gardé la cendre. » Aïe, aïe, aïe. On pourrait formuler ça différemment pour nous qui sommes en 2023. Être chrétien, c'est pas le culte de la cendre, loin s'en faut, mais la recherche de l'onction de l'esprit, du feu de l'esprit, et c'est l'entretien du feu de l'esprit. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. C'est un ancien chant, ça. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, c'est bien, je suis content. Alors, tout ce qui vient du premier Adam, il doit se consumer par le feu. Eh oui, il nous faut l'humilité d'accepter que notre vieille nature soit crucifiée avec Christ, et c'est aussi là le message profond de la croix de Golgotha. Alors l'Épître aux Galates nous rappelle qu'Agar, Agar, c'est l'image de la servitude. Elle était la servante de Sarah. Elle a été chassée, loin du fils de la promesse. Dieu avait dit à Adam, c'est Galates 4:30, « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Alors la parole de Dieu nous dit que c'est une allégorie, c'est-à-dire que c'est l'expression d'une pensée pour imager la différence là entre la loi et la grâce. Sous la grâce, nous servons dans un esprit nouveau. C'est plus l'esclavage, tu n'as pas le droit, tu feras pas, etc. Nous avons une nouvelle et belle nature. Une nouvelle nature. Amen.
Amen.
Nous avons une nouvelle nature. Et cette nature, elle n'a plus envie de faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Au contraire, elle n'a qu'une envie, c'est ressembler à son Seigneur. Ressembler à son Seigneur et elle a nouvelle nature, elle est hors du péché, comme son Seigneur. Le vieux moi, Dieu l'a aimé quand même. C'est quand même extraordinaire. Il est, ben oui. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Un monde tombé, un monde dans l'esclavage du péché. Tous ces vieux mois, excusez-moi, Dieu les a aimés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'empêche que le vieux moi, il est horriblement laid aux yeux de Dieu. À cause de son péché, il ne peut même pas vivre la vie divine, il ne peut pas, même s'il veut, il n'y arrive pas. Il n'a aucune part dans le ciel. Il n'a aucune part dans le ciel. Chasse l'esclave et son fils. Il n'y a pas d'héritage pour l'esclave du péché dans le ciel de gloire. Et il y a un ancien chant qui dit que ta beauté, Jésus, se reflète en moi. Tout ton merveilleux amour, ta pureté, que l'Esprit éternel englobe le mortel jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'ancien chant, tout ça. Moi, j'ai quelques souvenirs encore, des choses anciennes. Mais pour que ce miracle intervienne, il faut vivre concrètement notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Dieu veut nous donner la beauté au lieu de la cendre. Amen. Mais notre beauté, notre joie, ils sont une même source, Jésus-Christ, Jésus notre Seigneur. En Christ, par son esprit, Dieu nous a oint d'une huile de joie. Moi, je sais pas, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai l'impression que je touchais plus terre. J'ai l'impression que j'étais au-dessus de... Quelle joie extraordinaire! C'est une huile de joie. Amen. C'est une huile de joie que le Seigneur nous a donnée. Nous n'oublions pas que la seule beauté qui fait la joie du Père et qui fait la nôtre, c'est celle de Jésus-Christ. Quel malheur! Quelle misère quand on voit les chrétiens, des chrétiens de ce siècle préférer quelquefois le chemin large et spacieux, être constamment dans la recherche des plaisirs et des distractions de ce monde. C'est Jésus seul qui peut nous apporter la vraie joie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tout est vanité dans ce monde qui court à la ruine et qui est en train de s'écrouler. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le psalmiste disait, au psaume 9, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Eh bien, ça doit être aussi notre désir. Seigneur, ce matin, je décide que réellement tu es le sujet de ma joie. J'en veux pas d'autre. Que tu es mon allégresse. Bon, il y a les petites joies de la terre, c'est sûr, mais non, c'est l'équipe, la joie, celle qui est le fruit de l'esprit. Amen, nous la trouvons en Jésus-Christ. Excusez-moi, une pause. Oh, c'est déjà bien que je sois là. Ben oui. Alors, en Jésus, Dieu nous donne un manteau de fête, un vêtement de louange. Oh là. J'ai remarqué que quand les prédicateurs prêchent sur la louange, tout le monde est content. Et quand ils prêchent sur la sanctification, hein, tout le monde baisse la tête. Hein. C'est pas pareil. On est moins populaire, là. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le Seigneur revêt d'un vêtement de louange les cœurs impurs? C'est juste une réflexion comme ça que je voudrais vous apporter. Je crois pas, hein. Il y a un problème, hein. C'est bon de faire le point, quelquefois, quand même, avant de venir au culte. Vous trouvez pas? Seigneur, fais-moi grâce. Peut-être cette semaine, j'ai pas été bien parfait. Pardon, Seigneur. Lave-moi encore par le sang de Christ. Parce que je veux être vraiment un instrument de louange dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des mérites à louer le Seigneur? J'ai l'impression que quelquefois, non, peut-être que je ne suis pas moderne, mais non. Louer le Seigneur est chose normale. Comme faire le bien, c'est chose normale. Bah, bien sûr, il n'y a pas de mérite là-dedans. Tout est grâce. Quand le Seigneur nous accorde quelque chose, il nous l'accorde par pure grâce, pas parce que nous le louons quand même. Mais ça ne nous empêche pas de louer, bien sûr, c'est bien. Bon, non, je ne suis pas trop long quand même. Nous avons besoin d'un équilibre. Hein. La louange a sa place. Amen. Soyons de ceux qui louent le Seigneur de tout leur cœur avec un cœur pur. Hein? Que le Seigneur nous fasse grâce. Hein, la louange, il est écrit dans le psaume 33, hein, elle sied au cœur droit. Hein, elle convient au cœur droit. Il faut que nous en soyons pleinement conscients. On n'est pas plus spirituel que l'apôtre Paul ou que l'Esprit qui inspirait la parole de Dieu. Je crois qu'avant de louer le Seigneur, le pécheur perdu, il doit se repentir. Personnellement, moi je le vois comme ça. Hein. 1 Corinthiens 21 nous dit d'ailleurs qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà. Alors, pour moi c'est simple. Mais que le Seigneur nous en donne réellement la vision. D'ailleurs, le pécheur perdu, il faut déjà qu'il prenne conscience de son péché, bien sûr, qu'il demande pardon, hein, et qu'il reçoive par la foi ce pardon dans son cœur, qu'il reçoive Jésus dans son cœur, dans sa vie. Il va recevoir un diadème, bien sûr, hein, une vie nouvelle, c'est certain. Et puis, il va recevoir la consolation. Quand on vient à Jésus, on reçoit la consolation, on reçoit du repos. Il va recevoir l'huile de joie, le Saint-Esprit qui va le conduire dans la louange et l'adoration. Et c'est après, bien sûr, qu'il va être vêtu d'un manteau de louange, d'un vêtement de louange, disons d'un manteau de bonheur, quelque part, de fête, au lieu d'un esprit abattu. Jésus, comme Jean-Baptiste, comme Pierre, ont commencé à prêcher « Repentez-vous ». Ça a été le départ de leur ministère. Et aujourd'hui, ce monde qui court à la ruine a besoin d'entendre ce message-là. Et nous sommes les témoins de Jésus-Christ pour le faire entendre. Amen. Repentez-vous, comme le disait Pierre, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Alors, quand on voit, bien sûr, quand on s'approche de Dieu, par la repentance. Et de toute façon, à chaque fois qu'on s'approche plus près du Seigneur, vous savez, on réalise nos manquements, on réalise notre faiblesse, nos imperfections. On voit quand même la réaction d'un homme comme Ésaïe quand il a eu la vision du Seigneur. Voilà. Et il a entendu « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hein, » Il va dire quoi ? Il va dire « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ah, on peut quelquefois se sentir bien, quoi, tout va bien. Je crois que quand on s'approche du Seigneur, on réalise quand même qu'on a encore quelques progrès à faire. Hein, il ne s'agit pas de s'endormir, nous sommes appelés à lutter. Hein, parce qu'il y a le monde qui est là, il y a l'adversaire, puis il y a le vieux moi qui n'est pas encore complètement mort, qui est toujours capable, même s'il est sur la croix, de descendre pour ferrailler au moindre mot qu'on nous donne, qu'on nous dit de travers, quand on nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas. On croyait déjà qu'il était vaincu, lui et moi, il descend de la croix et il commence à ferrailler. Que le Seigneur nous aide, nous avons des progrès à faire, Jésus n'est pas changé. Il veut toujours nous donner une pleine consolation et nous en avons tant besoin dans les temps que nous vivons. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, bon, on ne peut pas parler des églises, non, mais il y a des choses qui nous attristent. Nous avons besoin de la consolation du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen.
Amen.
Amen. Alors, nous avons toujours besoin qu'il nous donne, et toujours de garder cet ornement, ce diadème au lieu de la cendre. Nous avons toujours besoin de rechercher réellement cette huile de joie. Toujours être vêtu d'un vêtement de louange, un manteau de fête. Le Seigneur veut qu'on nous appelle des térébintes de la justice. Sa parole, il l'a plantée en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous savez, la semence, elle est d'une super qualité. Hein. Je vous l'ai raconté certainement déjà. Mais un jour, j'étais rue Le Canuet, il y a pas mal de mois de ça. Et il y a un monsieur qui est venu me trouver, il me dit « Est-ce que vous êtes monsieur Pixeur ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Il dit « Qu'est-ce que c'est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il me veut ?» Vous ne connaissez pas. Il me dit « Je vous ai entendu prêcher au temple à Darnétal. » Dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. J'ai dit « Temple de Darnétal. » Mais ça fait quoi, 15 ans, 20 ans? Ah, dit bon, il se rappelle de moi, il se rappelle de ma figure, il me rappelle de mon nom qui est un nom accouché dehors avec un billet de logement. Et il me dit, vous avez parlé sur tel sujet. Alors là, après la sur le moment, j'étais stupéfait qu'il puisse se rappeler du thème de la méditation. Et avec le temps, la réflexion, je me suis dit, oui Seigneur, tu m'as parlé là. Tu m'as dit que ce que j'avais semé quelque part, la semence, elle avait de la valeur, elle était indestructible. Donc cette semence, elle est restée dans les cœurs. Alors je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, hein, si vous avez semé, vous l'avez fait certainement.
Amen.
Vous ne voyez rien? Vous ne voyez rien lever? Non. Le Seigneur s'en occupe. C'est sa parole. Et la semence, elle est d'excellente qualité. Hein, elle est d'excellente qualité. Vous voyez, là, 15-20 ans après, monsieur, il se rappelait de ce que j'avais dit, vous rendez compte. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui avait fait ça, c'est pas moi. Hein. Je suis qu'un petit bonhomme. Mais il veut que nous soyons une plantation qui serve à sa gloire. Et nous servons à sa gloire quand nous vivons, bien sûr, une vie de sanctification et une vie de témoin de Jésus-Christ. Alors, le psaume, je termine par un verset, psaume 30, verset 11. « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » C'est bien ?
Amen.
Vous voulez pas le dire avec moi ?
Si.
Ah, amen. Ben voilà. Amen. Ben oui, votre frère Enoch a commencé tout à l'heure avec le psaume 23, alors je peux quand même vous demander un petit verset. Alors, tu as changé mes lamentations en allégresse. On recommence. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Et tu m'as ceint de joie. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur.